toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
C'est une fresque historique, une plongée d'un souffle inouï dans la Guinée des indépendances, à la suite d'un homme sans qualité, paria dans son village d'agriculteurs, un homme qui n'en deviendra pas moins un héros. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
C'est à une traversée épique et picaresque que nous convie notre invité aujourd'hui. Son film nommé a été ovationné à Cannes et depuis, il poursuit un parcours festivalier sans faute. Grand prix du Festival de Bordeaux, entre autres. Sana Nanada, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis la Guinée-Bissau. Nous vous espérions en studio avec nous, mais il ne vous a pas été possible de vous rendre en France, de prendre l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je n'ai pas eu mon visa. Je vais être en France le 6. Je n'y serai que le 11. Je viens d'avoir mon visa hier.
Et à nos côtés, en studio, le producteur de ce film magistral. Bonjour Olivier Marbeuf.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous ce samedi. À l'affiche de tous les cinémas du monde aujourd'hui, un reportage sur la sortie du film Tiger Stripes en Malaisie, sortie censurée. Et bien sûr, le journal du cinéma avec vous, Sophie Torlotta, et notamment un chiffre qui fait écho à la Journée internationale des droits des femmes. C'était hier, vendredi 8 mars. Un chiffre donc 30%. 30% des films en France ont été réalisés par des femmes, contre 26% en 2021 et 23% en 2019. Donc il y a du mieux.
Voilà, ça avance. Hein, et c'est, je me fie au rapport de l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes, un observatoire émanation du ministère de la Culture et qui vient de dévoiler son étude. Donc ça avance. 30% des films en France ont été réalisés par des femmes en 2022. Il reste que les femmes sont quand même moins payées que les hommes. Et là, l'écart se creuse au fur et à mesure des études. Quant aux aides publiques et aux subventions, les hommes restent les grands bénéficiaires. Par exemple, en 2022, sur 58 projets ayant bénéficié de l'avance sur recette du CNC, seuls 28% ont été réalisés par des femmes contre 69% par des hommes.
Donc ça, c'est pour la France, donc presque un tiers hein, de réalisatrices dans le monde du long métrage. Au pays de Barbie, c'est encore moins reluisant.
Oui, et là, je m'appuie sur un autre rapport rendu public quelques jours avant les Oscars. Hein, c'est le Hollywood Diversity Report. Et là, Barbie serait l'héroïne qui cache hein, le manque de vedettes féminines. Seul un tiers des longs métrages produits l'an dernier à Hollywood sont centrés sur une femme. D'après les chercheurs, les femmes ont perdu du terrain en matière de représentation, que ce soit pour les rôles principaux, que ce soit dans la catégorie des scénaristes et puis de l'ensemble des acteurs. Voilà un signal d'alarme tiré peu de temps avant la cérémonie des Oscars et alors que le biopic du père de la bombe atomique, Oppenheimer, est le grand favori.
Alors dans une trentaine de minutes, on vous retrouvera, Sophie, pour le journal du cinéma. Mais avant, on embarque pour la Guinée-Bissau.
Pourquoi vous avez mis cette carte de Guinée ?
Dans le nord. J'ai une junta de guérilla.
Boy, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais c'est une junta qui bosse.
Passa já 6 anos. Não me tenho o de águia. Ele dor de cabeça batugas. E certeza na vitória de Guiné.
Pensa ter na beira do que você não cancela.
Anta qui n'est pas préparé pour ça pour tout le monde.
La bande-annonce de nommer votre film Sana Nanada. On passe du chant des oiseaux au son des mitraillettes et puis toujours cette douceur dans la voix de Nommé, votre héros, donc héros de la guerre de libération. On est en Guinée-Bissau à la fin des années 60. Alors Nommé, c'est un nom particulier puisqu'en créole, c'est celui qui a le nom de tous. Donc c'est presque un anti-nom, c'est un peu comme l'homme sans nom des westerns en fait.
C'est l'homonyme de tout le monde.
Qu'est-ce qui vous a poussé à lui trouver ce nom ?
C'est-à-dire que nous allons faire une lutte pour l'indépendance qui va mélanger tout le monde, presque tout le monde. On a mis 11 années à concrétiser notre indépendance, c'était un effort collectif assez grand. Et puis, quand on a eu l'indépendance finalement, il y en a qui se sont dit « bon, ça suffit comme ça, je vais me reposer un peu ». Il y a un homme, lui, il veut continuer, il n'est pas satisfait, il n'est pas content de son sort. Il trouve qu'il a trop donné pour ne rien recevoir en retour. Alors, il se met à se servir.
Alors, on en reparlera tout à l'heure. Mais cette histoire que vous racontez, elle est très personnelle. Comment vous avez écrit le scénario avec vos souvenirs, des réminiscences comment ça s'est passé?
Bon, normalement, je prends 2 ou 3 mois pour faire 1, 2, 3 versions avant de me trouver un scénariste, un dramaturge. Dans ce cas, c'était le Virgilio Almeida, c'est un Portugais, avec qui j'ai écrit le scénario. Habituellement, je prends quelques temps pour intérioriser le sujet. Je le mâche un peu pour être sûr que je n'oublie rien. Et puis, je me trouve un scénariste pour qu'on travaille ensemble.
Malheureusement, Sana Nanada, on est un peu en train de perdre la connexion avec la Guinée-Bissau. C'est tellement, on aurait tellement aimé vous avoir parmi nous en plateau. Mais on va entendre votre voix grâce à l'interview que vous nous aviez accordée. C'était en mai dernier au Festival de Cannes, où Nommé faisait son avant-première mondiale dans la section parallèle L'Acide. Donc on vous souhaite, puisque vous venez en France, on vous souhaite une excellente tournée. Merci beaucoup.
Merci.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
Olivier Marbeuf, vous êtes aussi l'un des co-scénaristes de Nommé. Comment s'est faite la première rencontre avec Sana Nanada ? C'est-à-dire que vous connaissiez ses premiers films ? Vous avez été mis en contact par quelqu'un ?
Alors moi, je ne connaissais pas ses premiers films. Et la première rencontre que j'ai eue avec Sana, c'est avec le matériau d'archives qu'on voit dans le film, dont certaines images qu'il avait réalisées lui-même durant la guerre d'indépendance et après l'indépendance. Et ces images-là, je les ai découvertes autour de 2011 par l'intermédiaire de Philippa César, qui est une cinéaste portugaise qui s'est beaucoup investie en Guinée-Bissau et dont moi je produisais les films. Et elle a commencé à travailler avec ce matériau-là qu'elle avait redécouvert avec Sana autour des années 2010 à Bissau. Parce que beaucoup d'images qui ont été filmées par ce groupe de 4 cinéastes que Cabral a envoyé à Cuba, dont Sana Nanada, ces films ont été perdus au fil des différents coups d'État et changements politiques en Guinée-Bissau. Il les retrouve vers 2011. On va dire qu'il y a entre 30 et 40% qui est encore utilisable. Le reste a disparu à cause du syndrome du vinaigre. Ça a été mal entreposé à cause de
l'humidité. Abîme à jamais les pellicules.
Voilà, donc on a fait numériser en Allemagne tout ce qui était numérisable. Et donc là, moi, c'est là que je rencontre pour la première fois ce matériau-là. Et je vais rencontrer Sana plus tard, je dirais vers 2016, quand sort le film de Philippa César, Spare Wheel, avec lequel il tourne, parce qu'en fait, avec cette sortie de son film...
Vous savez ce qui veut dire, la bobine épargnée.
Voilà, et en fait, ce film-là parle et met en scène aussi Sana dans un documentaire de Philippa César, autour de justement ce moment où il retrouve les pellicules et il décide de faire un cinéma ambulant en Guinée. Donc là, moi, vers 2016, je rencontre Sana.
Oui, parce que c'est des archives, c'est un trésor, ces archives.
Bah oui, c'est un trésor.
Ça documente, la guerre de libération.
Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce qu'on fait, des choses. Ce n'est pas tellement le rapport patrimonial. Pour rien vous cacher, j'étais un peu interrogatif, voire un peu agacé, qu'on patrimonialise quelque part une personne. Je lui dis, mais Sana, est-ce que tu fais encore des films ? Parce que on a fait 1 projection, 2 projections, 3 projections des archives. OK, ça intéresse beaucoup les gens et c'est un très, très beau matériau. Mais moi, j'ai une personne vivante devant moi et je me demande, mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Surtout que Sana, dans toutes les projections des archives, il finissait par une phrase qui disait un peu... Mais à quoi tout cela a servi, quoi. Donc, et moi, je l'ai entendu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment donné, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu dis ça, Parce qu'effectivement, la situation en Guinée était très, très mauvaise. Et c'est l'histoire de Nommé. Et il me dit, mais moi, j'ai un film Je veux faire un film qui raconte pourquoi je dis ça, ce qui s'est passé après ce moment révolutionnaire, qui avait un rapport de fascination un peu fétichiste quand même avec un public en Europe, aux États-Unis, on a montré ça à Berlin. Mais ce fétichisme-là sur des images révolutionnaires ne pose pas la question de quels sont les résultats de la révolution en termes d'égalité homme-femme, parce que c'est le lendemain d'une journée importante. Qu'est-ce que ça a produit en fait en termes d'émancipation, sachant que Cabral avait vraiment des idées extrêmement progressistes sur la question. Et donc là, Sana, il m'a dit ça n'a rien produit. Et c'est là qu'on a commencé à discuter de ce que lui imaginait faire comme film pour parler de ce problème.
Et il avait déjà commencé à écrire ou vous avez commencé ensemble ?
Non, il avait déjà commencé à écrire avec Virgil Almeida dont il parlait, qui était un scénariste portugais. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé parce que moi, j'ai lu la première version du scénario, donc on est vers 2016, peut-être 2017, il me le confie. Et là, c'est un film de guerre assez classique qui est écrit, un film de guerre et d'après-guerre. Parce qu'en réalité, il avait un projet de faire 3 films. Il a fait Chimé en 94. Il devait faire un film sur la guerre et puis un film sur l'après-guerre. Le film sur la guerre, c'est pas fait. Et ce film nommé concentre la guerre et l'après-guerre. Mais c'est quand même un film d'après-guerre.
Et c'est un film en 3 parties. Voilà. Effectivement, alors on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec vous, Olivier Marbeuf. Juste après, José Carlos Schwartz, c'est un titre qui évoque nommé Na Colonia.
Sara kumbasa na colonia unde saidu saidu njai na colonia unde idi Tu malamor, quand t'as mis des spaghettios, tu malamor.
êtes bien sur RFI, dans tous les cinémas du monde, avec notre invité Olivier Marbeuf, co-scénariste et coproducteur aussi de Nommé, film de Sana Nanada. Donc on a parlé du héros Nommé et j'ai dit, alors est-ce que j'ai raison, c'est une sorte de paria dans son village parce que en fait son père était un mythique joueur de bombolong. Le bombolong, c'est une sorte de tambour de guerre fabriqué dans un tronc d'arbre. Lui ne sait ni fabriquer l'instrument, ni trop en jouer. Est-ce que c'est pour ça qu'il est à l'écart ?
En fait, au départ, on ressent dans ce film-là qu'être sur le front, c'est une position aussi importante pour des villageois. En fait, il faut comprendre que le film se situe à un passage entre une période plus traditionnelle de la Guinée vers une forme de modernité forcée qu'est la guerre coloniale. Donc il y a ceux qui vont rester bloqués presque dans ce monde paysan, on peut l'imaginer n'importe où dans le monde, hein. Et puis ceux qui, à travers la guerre, en quelque sorte, se projettent vers une forme, on pourrait dire, de moderne, urbaine. Ils vont voyager dans des villes, où, et même s'ils sont dans des maquis. En tout cas, il y a le sentiment que rester dans un village à un moment en tant que tel, c'est rester bloqué dans un temps ancien. Et lui, Nommé, aspire à quelque chose d'autre, mais il n'est pas non plus très courageux, il n'a pas non plus, voilà, c'est pas un garçon très entreprenant et volontairement...
C'est pas un foudre de guerre.
Non, et c'est pas un héros, en fait. C'est aussi effectivement un anti-héros, et c'est aussi ça un choix qui est très important dans le travail de Sana, par rapport à une histoire de guerre d'indépendance, où souvent le récit est un récit articulé autour des héros et parfois des héroïnes. Là, c'est pas le cas. On prend quelqu'un qui pourrait être tout le monde, et son nom Nommé veut dire, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde.
Et justement, tout de suite, le film est baigné... d'une sorte d'ironie, puisque vous le disiez, Olivier, il va s'engager aux côtés des guerriers héros. A priori, on pourrait se dire, dans un film plus classique, c'est par conviction politique. En fait, pas du tout, parce qu'il fuit son village parce qu'il a engrossé une jeune fille. Et donc, comme vous le disiez, c'est une sorte de héros malgré lui. Alors, quand j'ai rencontré en mai dernier au Festival de Cannes Sana Nanada, je lui ai demandé comment lui était venue cette idée.
Je me rappelle comment tout le monde, ceux qui ont participé dans le processus de l'indépendance, chacun a sa raison d'être là-bas. Il y en a qui sont partis comme des activistes du PGC d'Amilcar Cabral, qui ont été mobilisés par Amilcar Cabral. Il y a ceux qui ont fui la répression de l'armée portugaise, l'armée coloniale portugaise, l'armée coloniale, je veux dire. Et puis il y a ceux comme moi, qui était dans mon village, un chalet, pas à Bissau comme j'ai vu. Moi, je suis de l'intérieur, du centre du pays. Moi, j'étais adolescent.
Vous aviez quel âge ?
13 ans. Quand la guerre a commencé, j'avais 13 ans, je dormais normalement. Et des coups de feu ont réveillé toute la famille. Et ma maman a pris ses enfants et nous a menés, nous cachés derrière les guerrieros. C'est comme ça que je suis allé là-bas.
Est-ce que vous saviez, dès le départ, que votre film serait le portrait de la transformation de cet homme Nommé et une grande fresque historique que vous le suivriez pendant le quart de sa vie ?
Oui, moi, j'étais, pendant les 11 années qu'a duré le conflit dans mon pays, j'étais, les premières 5 années, j'étais dans la guérilla. Ma famille croyait que l'armée portugaise qui était installée dans notre village, quelques 30 hommes pouvaient être bannis pour continuer l'agriculture. C'était au mois d'août, le mois de pleine agriculture de mon pays. Mais on est parti pour une semaine, on en a fait 11 années pour revenir. Du coup, je ne suis pas revenu au village, je suis resté là à faire des films.
Ouais. Pour revenir à votre film Nommé, donc on va suivre le parcours de cet homme sur plusieurs décennies. On va suivre sa transformation. Donc c'est une fresque historique très ample. Oui. Est-ce que vous saviez dès le départ que le film allait suivre 30-40 ans de la vie de cet homme ?
Non, ce n'était pas intentionnel. J'ai voulu faire un film en trois parties. Pour me rappeler comment ma famille et d'autres familles de mon village sont allées se retrouver en plein conflit colonial. Et notre film devait faire suivre le deuxième. C'était pour montrer comment on a vécu ça, ce que ça a entraîné comme souffrance humaine, physique, tout, de toutes sortes. Et puis le dernier serait qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle l'indépendance. Parce que j'ai vu mourir pas mal de gens dans toutes les familles de Guinée. Il y a même des familles des familles entières qui sont disparues à cause de la guerre. Et je m'attendais à ce que cette indépendance, dont je ne savais pas grand-chose, comment ça allait se matérialiser. Parce qu'on disait indépendance totale et immédiate. C'était le programme mineur du parti. Et là, moi, je suis un peu maintenant déçu de voir ce qu'elle devient vraiment effectivement, cette indépendance.
Nommer votre personnage, est-ce que vous pourriez nous le décrire et raconter comment vous l'avez construit? Parce que c'est un homme complexe qui se transforme constamment. Donc on va le suivre, donc on suit ses premiers pas dans le village, je nomme un petit peu mis au banc de la communauté, et puis il va s'engager malgré lui, on le disait, dans la guerre de résistance, il devient un héros, et à la fin de la guerre, que faire? Il voudrait avoir de l'argent, il voudrait avoir du prestige, il a beaucoup d'ambition, et puis on ne lui donne rien, et donc il va devenir, si je puis dire, une sorte de super mafieux, contrôlant le port de la ville, voilà, et gagnant énormément d'argent. Est-ce que c'est une façon de raconter justement à la fois l'euphorie des indépendances et tous les espoirs soulevés par le collectif et puis la dissolution de ces espoirs dans l'individualisme?
Je voulais critiquer la façon dont on s'attendait à être vraiment des riches, des hommes riches, tout. Les agriculteurs que nous sommes en majorité ont perdu l'habitude de l'agriculture. Ceux qui étaient pêcheurs, pendant 11 années, ils ont perdu leur habitude. Mais on ne s'attendait pas à être comme ça, à dire merci, la guerre est finie, au revoir. Ces gens-là, il fallait, Cabral avait pensé que nous étions des militants armés, pas des militaires. J'ai dit nous, mais moi je n'ai jamais fait un coup de feu. Mais j'étais à l'hôpital, à l'enseignement et tout, mais on ne s'attendait pas à être payé comme devenir riche. Mais non plus qu'on nous dise à la fin au revoir, personne ne s'est occupé de nous. Il y en a des gens qui sont partis le week-end pour avoir la famille et tout, de camp militaire. Quand ils sont revenus le lendemain, il n'y avait plus rien. Leur nom était, ils ont trouvé leur nom dans une liste affichée à l'entrée des camps, comme quoi c'est fini. Donc, quelqu'un qu'on a fait 11 années de sa guerre, à la fin, on le traite comme ça. Il apprend, le matin, il n'est plus rien. Il ne savait pas où est la famille. Il s'attendait avec traiter d'une autre façon. Amica Cabral avait pensé qu'il fallait organiser une façon que des gens qui ont perdu l'habitude de faire l'agriculture puissent reprendre leur vie en une sorte d'organisation, une sorte de coopérative. Et il avait formé des agronomes, des techniciens, des machines agricoles pleines. Il avait formé beaucoup de gens, il fallait organiser. L'État n'existait pas, et l'État ne va pas engager tout le monde, mais il fallait organiser la vie sociale de telle façon que ceux qui ont participé dans la lutte puissent reprendre une vie normale. Comme ça ne s'est pas venu, l'homme ne s'est pas posé pas mal de questions, il ne s'est pas posé beaucoup de questions, il a décidé que sa lutte, lui, ne terminait pas. Sa lutte continuait sous une autre forme.
Sana Nanada au Festival de Cannes pour la présentation, l'avant-première de son film nommé avec cette grande question que pose le film. Qu'est-ce qu'on fait de l'indépendance? Question genrée, puisqu'il y a l'histoire des hommes qui se sont battus et qui veulent, voilà, qui désormais veulent le pouvoir, l'argent, les femmes. Et puis, de l'autre côté, en face, l'histoire des femmes qui, elles, aiment, qui soignent et qui souffrent.
Dios lindo, guarda niente. A mi nunca encallare irens. Vino un debo mi son el mundo. E anju son canten. Mato grande, amato seguro. Amato non è che tu non t'ha buscado. Sto un po' longa se mi succuta. Così mi intendi, così mi guarda il segredo. Passi po' longarandi, che li scena buscava un cosa in gerga. E ne mi schigna secca se mi, e ne conta se è cucciati. Ieri sna papa bambarang, o mi sna busca curajai. E li studena fica bocca.
Olivier Marbeuf, il y a de très beaux personnages féminins dans le film. Là, on est en train d'entendre donc le personnage de Nandou, la jeune fille engrossée qui va accoucher seule au pied d'un arbre. On pourrait citer aussi Kitty, qui est l'infirmière du camp et qu'on va suivre après la libération. Ils sont arrivés comment, ces personnages féminins dans le film? Parce qu'il y a vraiment la révolution des hommes et la révolution des femmes.
Alors, c'est des personnages qui sont là depuis le début et le film vraiment tente de rendre honneur aussi, d'une part, évidemment, à la manière dont Sana a été éduquée. En fait, il n'y a pas ces différences de genre aussi marquées en fait en Guinée-Bissau et dans la culture balande, notamment que ça existe en Europe. Ça peut peut-être justement renverser nos perspectives. Mais moi, le travail de production que je fais est essentiellement lié à une histoire en fait aussi des émancipations qui montre que n'est pas émancipé qui croit en premier. Donc c'est depuis très longtemps dans la tradition bissau-guinéenne et notamment chez les Balantes, les différences de genre ne sont pas très marquées. Et seule l'initiation d'ailleurs produit la masculinité. Avant, les personnes ne sont pas différenciées en termes de genre. Et parmi les grands sujets de Cabral, en plus d'un travail sur une agriculture qu'on dirait biologique aujourd'hui, très en avance sur son temps, il y avait l'égalité homme-femme. Et donc le fait que dans la guérilla, comme dans la cité guinéenne qui projetait, les hommes et les femmes s'occupaient de toutes les tâches. Et c'est vrai que le personnage Nambou, qui est joué par Binette Undong, qui est la seule comédienne professionnelle du film en fait, est un personnage vraiment fort parce qu'elle va d'abord subir, mais progressivement en fait, on va voir qu'elle va prendre de plus en plus d'importance et elle est la figure alternative à nommer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans la révolution que simplement cette volonté d'obtenir du pouvoir,
de s'enrichir.
Et bon, il y a un moment où, en fait, je ne vais pas spoiler le film, mais où en tout cas les femmes se retrouvent et il y a une espèce de proposition politique, à mon avis, en fait, du côté des femmes qui est très, très importante et qui se noue et qui se passe en parallèle d'un destin quand même assez tragique pour les hommes.
Et justement, est-ce qu'on peut, avant de parler de ce destin tragique, Olivier Marbeuf, parler des acteurs qui sont tous formidables et souvent des non-professionnels? Comment on fait un casting en Guinée?
Alors ça, c'est
par le producteur que vous
ouais,
êtes.
Non, c'est très intéressant. En fait, ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Toute la partie acteurs, ce soit les acteurs eux-mêmes, mais aussi leur direction, leur préparation, leur accompagnement et toute l'organisation locale a été faite avec une coproduction guinéenne, Géba Film, qui est une coopérative à laquelle participe Sana. Et ce qui était très intéressant là, c'est qu'on a à la fois très peu d'industrie cinématographique, presque aucun industrie technique pour des questions de vraiment de développement économique et de problèmes aussi liés à la corruption. Donc on a tout transporté, mais à côté de ça, on a rencontré une vraie tradition théâtrale guinéenne, très puissante, très fournie, avec beaucoup de gens qui font du théâtre. Problème, c'est les acteurs de théâtre, pour faire du cinéma, il faut quand même les déplacer d'une manière de jouer vers une autre. Et ce qui était extrêmement impressionnant quand on a fait le travail de casting, c'est qu'on avait je ne sais pas combien de personnes qui avaient appris tous les rôles.
Ah bon?
Donc là, on avait des gens qui venaient au casting et disent « je peux jouer lui ». Et donc ça, c'était assez impressionnant. Tout le monde connaissait parfaitement tous les rôles. Et après, nous, on a essayé de faire de réfléchir le cinéma aussi en termes de mode d'association et de ne pas les penser tous individuellement, mais de dire « tiens, mais lui avec lui ». Et ce qui a été assez marquant, mais c'est aussi le fait que moi, c'est un pays que je connaissais moins que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. On a cherché à faire un groupe d'hommes pour les soldats qui vont être les compagnons nommés. Et en fait, il s'est avéré un phénomène, moi qui est un peu idiot, mais je préfère le dire avec un peu de transparence, il était impossible de trouver deux personnes avec les mêmes morphotypes. Et je me dis, mince, moi je vais faire un groupe, mais alors, il y a des grands très minces, il y a des petits trapus, machin. Et il me dit, bienvenue en Guinée-Bissau, qui est vraiment un pays qui est de convergence de beaucoup de populations, de groupes ethniques autour du delta de Guinée. Il y a une trentaine de langues parlées, vraiment de langues parlées, seul le créole est la langue commune. Et donc, quelque part, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas trouver quatre soldats qui allaient finalement, entre guillemets, aller ensemble. Et on a joué au contraire sur une espèce de groupe qui allait composer un espèce de cœur guinéen et qui représente aussi des morphotypes identifiables et connus par les Guinéens. Sachant que ce film, quand il est vu depuis l'Europe, il est vu d'une certaine manière, mais quand il est vu depuis la Guinée, c'est un documentaire, c'est pas une fiction. Nous, on voit une fiction, mais eux, ils reconnaissent les personnages. Et donc, toute l'histoire guinéenne se rejoue. Et ils reconnaissent aussi les types ethniques et donc les groupes ethniques d'où viennent les gens.
D'où vient tel ou tel personnage via la morphologie de l'acteur.
Fait.
Et tout le monde parle en créole.
Voilà, ben ça,
c'est un choix.
Ça, c'est un projet très spécifique de Cabral, hein, c'est un projet politique. C'est-à-dire que par rapport aux Antilles, moi je suis guadeloupéen, la construction du créole aux Antilles, il n'a rien à voir avec la construction du créole, ça a à voir parce qu'il y a un pic-dime au départ, mais là où c'est différent, c'est qu'il y a un projet politique du créole chez Cabral. La pensée de Cabral, c'est incroyablement contemporaine en termes de construction. Construire une langue commune qui ne soit pas une langue européenne. d'utiliser le cinéma pour filmer des aspects de la vie que d'autres ne vivent pas, éduquer, donc construire une nation. Et donc, il y avait un vrai très beau projet. Et ce film essaye par fragments de rappeler quand même ce projet, quoi.
Et justement, ce projet, enfin, si c'est bien de cinéma qu'on parle, ça aurait pu être le début d'une aventure formidable, d'une cinématographie magnifique. Sauf que du rêve à la réalité, malheureusement, il y a eu un gouffre. Et c'est ce que nous raconte Sana Nanada.
Le cinéma n'existait pas en Guinée-Bissau. Nous, on a créé l'Institut National du Cinéma. J'ai commencé à travailler dans le maquis déjà à 14 ans, 15 ans. J'étais à l'enseignement, j'étais à l'hôpital de campagne. Et puis, à 22 ans, j'ai commencé à filmer. J'étais preneur de son et opérateur caméra. J'ai filmé le 14 mois du conflit de mon pays. J'ai travaillé, j'ai filmé. J'étais comme reporter dans le front nord et l'est. Donc, à la fin de l'année, à la fin de la guerre, j'étais occupé. Je n'ai pas pu faire l'étude de médecine que je voulais faire. On m'a dit, il n'y a personne pour te remplacer, il faut que tu restes. Donc je suis resté. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme film, c'était mon initiative. Ceux qui me retiennent là, ils ne me donnent pas autre chose à faire, sinon faire des reportages sur des meetings politiques. Alors, on a gâché ma vie, mais je suis là.
Sana Nanada, c'était au Festival de Cannes. C'est terrible ce qu'il dit. On a gâché ma vie. Quand on voit nommé, on imagine toute la vitalité, tous les films qu'il aurait pu faire et tous les gens autour de lui, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais j'y pensais quand vous parliez des héroïnes féminines. On pensait à Sambi Zanga, de Sarah Maldoror, on pense aussi à Mortunega, de Flora Gomez. On pense à toutes ces opportunités gâchées, et le film raconte ça, puisqu'effectivement, il se termine avec nommé, devenu une sorte de super mafieux, ponctionnant la ville, les riches, les pauvres, pour... acquérir toujours plus de pouvoir.
En tout cas, cette potentialité-là, on a cherché à la mettre dans le film et qui est pour moi la deuxième décision importante, qui est une décision de production qui devient après une décision artistique, c'est d'en plus de ne pas faire apparaître les soldats portugais, c'est de faire un film de guerre sans presque pas de guerre dedans. Et donc là, c'est là que les archives arrivent, qui ne sont pas dans le scénario original. Moi, quand j'ai lu la première fois le film, il est en réalité beaucoup plus difficile à produire. Et là, c'est vraiment une décision de production, y compris matérielle. Faire un film de guerre en Guinée aujourd'hui, dans un pays qui n'est pas très stable politiquement, faire venir des acteurs portugais, faire une grande fraise de guerre. Moi, à un moment donné, il y a deux choses qui me marquent. C'est que je dis à Sana, en fait, la représentation de la violence à l'écran, ça a beaucoup changé, en fait. Et moi, qui produis des films en Europe, mais avec beaucoup de gens du Sud, je lui dis, je ne suis pas sûr que les gens aient envie de voir ça. Et moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le produire comme ça. Donc, moi, j'ai posé aussi certaines conditions, et c'est des discussions qu'on a eues ensemble. Faire un film de guerre avec des grandes scènes de guerre et tout, je ne voyais pas techniquement avec nos coproducteurs portugais, on s'est dit, comment on va faire ça ? Donc, matériellement parlant.
Il faut beaucoup d'argent, en plus.
Oui, il faut beaucoup d'argent, C'est très technique de faire des films de guerre. Et puis, à la fois, moi, j'avais un autre argument, c'est que je pensais que la représentation de la violence, notamment dans le scénario de départ, il y avait beaucoup d'actes de cruauté des Portugais. Normal, parce que le co-scénariste, Virgil Almeida, lui, en tant que Portugais, comme si nous, on faisait un film sur la guerre d'Algérie aujourd'hui, peut-être
une expiation.
Ouais, on aurait une fixette sur la violence de l'armée française. Ouais. Parce que c'est... Et moi, je lui dis, oui, je comprends bien, mais en fait, je crois que ce n'est pas le sujet. Et c'est vrai que les archives sont venues faire deux choses, à la fois donner un espèce de goût d'une époque, de cette époque de guerre, et à la fois, exactement comme vous venez de le dire aussi, donner un goût, alors qui était peut-être un peu mélancolique et amer, mais de ce que ce cinéma aurait pu être. Et l'archive ici n'est pas utilisée dans une manière classique d'un document d'illustration, mais devient aussi un autre espace de fantasmagorie. C'est un espace dans lequel on se projette, il y a un espèce de rapport un peu magique. Et avec la monteuse Sarah Salem, c'est un peu le travail comme ça qu'on l'a pensé, c'est-à-dire de transformer l'archive non plus comme quelque part qui serait quelque chose qui donne une preuve, mais au contraire, l'archive qui nous renvoie encore dans un temps magique et dont on ne sait plus s'il est réel, parce que l'archive devient des formes de rêve dans le film.
Merci, merci beaucoup Olivier Marbeuf d'être venu nous parler de Nommé.
Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli.
Une sortie est prévue en Guinée.
En Guinée, il y a déjà eu une des premières projections. Alors il n'y aura pas des sorties au sens formelle comme en France, que le film sort mercredi 13 mars, ici en France. En Guinée, il va y avoir des projections à l'Institut français, répétées plusieurs fois par jour. Donc, une espèce de cinéma permanent, comme ça.
D'accord, et les auditeurs, nos auditeurs qui vivent en Guinée, peuvent aller sur le site de l'Institut, c'est ça ?
Voilà,
c'est...
tout à fait. Et puis, il y aura des programmations qui vont être très régulières pour que les gens puissent le voir, au moins à Bissau, avant un projet qui doit aboutir de cinéma ambulant dans toute la Guinée avec le film.
Merci beaucoup. Vous restez encore un peu avec nous. Dans quelques minutes, on parle Oscar et censure en Malaisie. Mais avant, on écoute Amour et Lendemain par une alliance capverdo-française ou franco-capverdienne. Je ne sais pas comment il faut dire. Clémentine et Mariana Ramos.
Elle m'a menti, m'a houlé, m'a trompé, piétiné et déchiré le cœur. Un tourbillon de bonheur. Les amours, la folie et les si belles nuits. Mais le rideau est tombé sur nos années passées. Il n'en reste plus rien qu'un petit goût amer qui doucement s'éteint.
Avec vous, ce journal du cinéma, Sophie, en Afrique de l'Ouest, puisque depuis hier, Halé, le nouveau long-métrage du Sénégalais Moussa Senapsa est à l'affiche dans 9 pays d'Afrique.
Et oui, et dans 14 salles, Canal Olympia. Alors, le jour de la sortie n'a pas été choisi au hasard. C'était le 8 mars, hein, journée des droits des femmes. Halé raconte l'histoire de Hawa, une collégienne de 15 ans qui rêve de partir en Europe. Après le décès de leur grand-mère, Hawa et son frère jumeau Adama sont hébergés chez leur oncle qui va commettre l'irréparable. Voilà pour le portrait tragique de cette jeune fille. Alors après une tournée dans différents festivals du monde entier, Halé sort donc enfin en salle en Afrique et notamment évidemment au Sénégal. Il faudra attendre le mois prochain pour le voir en France.
Sophie, on en parlait en début d'émission. On saura très bientôt, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, pour être précis, quel film succède à Everything Everywhere All at Once aux Oscars.
Et oui, alors aura-t-on la surprise Anatomie d'une chute qui réitérerait l'exploit de Parasite, soit un film étranger qui remporte l'Oscar après la Palme d'Or? Bon, pas trop rêver, hein. Ça serait une surprise vraiment totale, sachant que parmi les 10 films nommés à l'Oscar, il y a Killers of the Flower Moon de Scorsese, La Zone d'intérêt, Pauvre créature, Barbie, et puis évidemment le grand favori, Oppenheimer.
Oppenheimer qui, comme Barbie, a fait un carton au box-office, $1 milliard de recettes, mais qui n'a pas fait que la joie des studios hollywoodiens.
Et oui, depuis la sortie du film de Christopher Nolan, la ville mystérieuse de Los Alamos au Nouveau-Mexique connaît un véritable boom touristique. C'est en effet là que Robert Oppenheimer avait fait construire un laboratoire top secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis juillet dernier, les touristes veulent voir les sites montrés dans le film, la maison d'Oppenheimer et le Fuller Lodge, là où les scientifiques organisaient des fêtes pour célébrer leur succès dans la fabrication de la bombe.
Sympathique. Enfin, s'il y a une catégorie où Barbie risque de décrocher une statuette, c'est dans celle de la meilleure chanson.
Oui, puisque sur les 5 titres prétendantes au trophée, 2 sont des chansons du film. What Was I Made For, interprétée par Billie Eilish, et I'm Just Ken, chanté par Ryan Gosling, qui prépare d'ailleurs, paraît-il, une surprise pour la cérémonie.
Et on termine cette émission en Malaisie avec un film qui sort les crocs. Le film raconte l'histoire de Zafan, une jeune Malaisienne de 12 ans qui vit dans une petite communauté rurale. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante, semblable à celui d'un tigre ou presque. C'est un film qui mêle comédie et horreur, tout en mettant en valeur le pouvoir et la liberté du féminin. Tiger Stripes, donc on pourrait traduire par les rayures du tigre, a reçu le grand prix de la critique au Festival de Cannes, mais en Malaisie, évidemment, certaines scènes du film ont été censurées. Sa réalisatrice, Amanda Nelliou, a accepté un entretien avec RFI depuis Kuala Lumpur avec notre correspondante, Juliette Pietraszewski.
Yeah, ok,
un trio de collégiennes, du folklore malaisien et une liberté de jeune femme en devenir. Voilà le décor planté par Tiger Stripes qui a marqué la semaine de la critique à Cannes en mai 2023 en gagnant le Grand Prix, le premier film d'Asie du Sud-Est à l'obtenir. Un souvenir fort comme au premier jour pour la réalisatrice.
Amanda, bonjour Amanda Nelliou, merci beaucoup d'être là.
Bonjour, hello, merci de m'avoir invitée.
Quelle était votre première réaction quand vous gagnez?
My body went numb. Mon corps est devenu tout engourdi. Je ne pouvais pas y croire. Mais c'était tellement super d'entendre cette nouvelle, bien sûr. Mais j'ai dû aussi me dire que je devais monter sur scène et faire un discours. Alors j'ai dû me calmer, mais c'était incroyable. C'était un si grand honneur.
Pourquoi la métaphore du tigre, d'où ça vient?
Oui, pourquoi ce sujet? Vous savez, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, de films en Malaisie qui traitaient du corps féminin. Ils traitaient de beaucoup de thèmes avec du folklore. Et j'ai été très inspirée par les histoires folkloriques que nous avons et les histoires de fantômes que nous avons en Malaisie. Et donc, c'était très naturel pour moi de commencer avec cette idée de ce que ça fait quand tu es en train de passer d'un enfant à une femme et toutes ces attentes qui te seront imposées. En fait, dès que vous avez vos règles, les gens vous regardent différemment. Les gens attendent de vous à ce que vous vous comportiez différemment. Tu ne peux pas être une jeune fille qui court partout avec les jambes écartées, grimper aux arbres ou tout ce que tu voudrais faire. Il faut se comporter comme une femme. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai donc toujours été intéressée par cette idée et de jouer avec cette idée de monstre que j'adore. On est arrivé à un point où le tigre se trouvait être une métaphore très forte, car le tigre est notre animal emblème ici en Malaisie et c'est aussi une créature si féroce. Mais il est également proche de l'extinction. Donc en fait, j'ai pensé que c'était une métaphore parfaite pour cette belle et jeune adolescente pleine de rage qui a tant de pouvoir et de beauté, mais ce pouvoir et cette beauté, on ne leur permet pas d'exister.
Vous avez déclaré au journal The Guardian que les Malaisiens ne pouvaient pas regarder le film dans sa version complète à cause de la censure.
Maintenant, ils le peuvent.
Maintenant, ils le peuvent, en effet, grâce à Netflix. Qu'en pensez-vous?
Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai en tant qu'artiste en Malaisie, c'est quelque chose de très réel pour nous et quelque chose que nous devrons tous traverser. Quand nous avons subi la censure, j'avais tellement de mal à savoir si je devais faire une déclaration publique à ce sujet. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cela, c'est parce que c'est exactement contre cela que le film se bat. Et si je ne dis rien, c'est que je suis une hypocrite et que je ne crois pas vraiment au thème de mon film. Et donc j'ai dû aussi défendre l'œuvre et défendre la voix de ce film.
Voilà, et c'est avec ce reportage à Kuala Lumpur, signé par notre correspondante Juliette Pietraszewski, que se termine tous les cinémas du monde aujourd'hui. On se quitte avec une nouveauté musicale, la reprise bissau-guinéenne d'un titre des Brésiliens de Baiana System. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré.
C'est Jérémy Boucher qui a réalisé cette émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur RFI ou sur l'application Pure Radio. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Sérimania, le grand festival des séries qui commence à Lille vendredi prochain. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Mission.